peu d'histoire. Jean Lebrun.
Félix Leclerc, pionnier du Québec.
Et moi, je dis que faire une chanson, c'est avoir les deux pieds, l'un à plomb, l'un solide dans un pays. On y vient au monde, on y vit, on y meurt.
Planté dans sa terre, il donnait l'impression de régir le fleuve Saint-Laurent. L'autoroute qui longe celui-ci porte d'ailleurs son nom. Les Québécois ainsi l'entendent et le prononcent chaque jour. Il est le pays. Ces textes faits pour être dits autant que lus l'avaient déjà rendu très populaire dans les années 40. Ensuite, un long séjour à Paris, il revient, chanteur consacré mieux. Il impose un style qui sera aussi celui de Brassens. L'auteur, compositeur, interprète à la guitare. Vous autres Français, disait-il, vous êtes un trop vieux peuple, trop déchiré par tant d'histoires, vous ne pouvez plus dire nous. Les Québécois, c'est autre chose, ils ont 3 siècles seulement derrière eux, et encore des siècles d'acquiescement muet, ils sortent juste du silence, ils peuvent parler d'une voix claire. Dans les années 60-70, alors que les Français continuent de le regarder comme un bûcheron mélancolique, en chemise à carreaux, Félix est au Québec de tous les combats du renouveau. Dans le tréfonds de moi, chante-t-il, je sens pour la première fois s'installer la colère qui habite souvent Jacques Bertin. Bonjour.
Ah, oui, bonjour.
Bonjour. Sire, c'est moi le loup. Me voyez-vous, m'entendez-vous? Je suis venu à travers bois vous saluer comme il se doit. Parce que vous êtes un homme de retraite maintenant, comme Félix Leclerc à la fin de sa vie. Le patriarche s'était retiré à l'île d'Orléans et vous?
Moi, je suis dans le Maine-et-Loire, mais je ne me suis pas retiré.
Non, non, vous tournez encore beaucoup.
Oui.
Parce qu'il faut que je dise, mais un certain nombre de nos auditeurs vous admirent assez pour le savoir, que vous êtes un chanteur qui a eu 2 fois le prix de l'Académie Charles Cros, tandis que Félix Leclerc, c'est juste 1 fois. Et vous l'avez rencontré comment? Parce que vous étiez, dans vos années de pleine activité, Jacques Bertin, journaliste et chanteur. Vous l'avez rencontré à l'école de journalisme de Lille?
Alors, c'est ça, oui, oui. Il venait chanter dans la salle des étudiants de la Cato de Lille, qui s'appelait le Studio 125, et moi, j'étais un chanteur archi-amateur. On s'est croisés, et je me suis fait copain avec son secrétaire, qui était Jean Dufour, et il m'est arrivé de plusieurs fois de faire la première partie de Félix et ainsi de sympathiser. Faut pas exagérer, on se tapait pas je lui tapais pas dans le dos, quoi, vous voyez, parce qu'il aurait pu être mon père, mais enfin on avait des relations, alors comment les qualifier, amicales.
Et même à l'île d'Orléans, à la fin de sa vie, il a accepté de vous recevoir alors qu'il ne voulait recevoir que Marilyn Monroe. De ce monde, Jean 23,
oui, c'est
ce
ça.
Monde,
oui.
Et Einstein était plus loin.
Voilà, parce que les quarts de touristes qui s'arrêtaient devant la maison et les ministres qui disaient « Allô Félix, est-ce que tu peux venir parce que je reçois un ministre français ?» et à une occasion, Félix a répondu à un ministre québécois « Non, sauf si tu reçois Marilyn Monroe, le pape et Einstein. » Voilà.
Et il a accepté de lire le livre que vous lui avez consacré, qui est toujours disponible aux éditions Boréal à Montréal, que vous avez publié de son vivant avec
la biographie,
son île Obstat.
Ah oui, 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 oui. En 2 mots, je suis allé chanter au Québec 1 fois, 2 fois, je comprenais tout ce qu'ils disaient, les Québécois, puis je comprenais rien au pays, et je me suis dit, il n'y a qu'un moyen de comprendre, il faut travailler, et tout d'un coup, ça m'est venu, j'ai dit, je vais faire la biographie de Félix, et Félix a dit oui, et me voilà au boulot, quoi.
Il est né le 2 août 1914, il vous expliquait que c'est un Québécois type, ça veut dire qu'il est de vieille souche paysanne, mais enfin, les paysans qui sont toujours prêts à aller sur le n'importe quel chantier qui s'ouvre, et qu'il est d'une famille de 11 enfants.
Oui. Son grand-père était cuisinier dans un chantier de bûcherons. Félix n'a jamais été bûcheron, hein, faut le dire.
Non, mais c'est un fantasme français, voilà, que j'exprimais dans mon chapeau.
Voilà. Félix, donc le grand-père cuisinier dans un chantier de bûcherons, c'était un travail terrible, hein, terrible, très très dur, hein, vraiment. Hein. 5 mois d'hiver dans des baraques à couper des arbres, etc. Le père, lui, a tenté sa chance dans l'Ouest canadien, dans le Maine, à Latuc, il a été marché. marchand de bois, enfin, etc. Pour finir, le père de Félix, Léo Leclerc, pour finir, paysan, à côté de Trois-Rivières, tout simplement. Et Félix, oui, sixième de 11 enfants, s'en va au séminaire à 13 ans, parce qu'au Québec, au Canada français de l'époque, c'est le seul moyen de faire des études.
Hein. Bah, il faut dire, expliquez-vous, que Dieu est ministre, président, juge et gendarme, et que dans ces années-là, son grand vicaire, c'est le Premier ministre, Maurice Duplessis, qu'on entend ici, au fait de son pouvoir, il est là depuis l'avant-guerre, il est revenu en 1944, on est en 1959.
Monseigneur, il me fait plaisir que le Premier ministre de province, le citoyen, sur Mercier, Jean Clergé, pour le rôle indispensable qu'il a joué dans tous les paliers d'enseignement, ils font d'erreur, grave erreur. Ceux qui préconisent la neutralité, il ne peut être question de neutralité entre vrai et faux, entre bien et mal. Il ne peut être question de neutralité dans le domaine de l'éducation, parce que la principale lumière, c'est la lumière éternelle.
Pour maman?
Ah, de là, oui. Ça pas l'air d'une fille qui a travaillé au foin.
Non, hein, je suis à une de nous, là.
Hein? En costume de bain?
Tu as raison.
Mon Dieu, toi, Rosette Plouffe, ma fille, t'aimes ce religieuse, un frère qui dominiquait, puis tu vas à la plage, t'as pas honte? C'est plein de garçons au lac, des yeux grands comme des pierres, c'est épouvantable, tu sortiras plus.
Ben voyons, maman, y'a pas de mal à ça. J'ai rencontré un beau garçon, 19 ans, sérieux, vous savez, en vacances au lac.
Tu t'es baigné avec?
Oh, un peu de loin. Oh, maman, il est assez beau. Je l'ai invité à venir veiller un soir avec nous autres.
Mais t'es pas gêné, à 18 ans. Mais tu sais donc pas que tous les hommes sont dangereux.
C'est pas celui-là, maman. Oh, je tombe.
Non, j'ai dit non.
Aller quand même à la plage, rencontrer l'inconnu du lac quasi nu en maillot de bain, ça c'est un extrait d'une série qui à l'époque des Duplessis était extrêmement populaire à la radio, puis à la télé, Les Ploufs
de Lemelin. Un triomphe radio, télé et au cinéma, parce que Gilles Carr a fait un film aussi avec les Ploufs. Oui, oui, oui.
Mais notre ami Félix, il fait des triomphes à la radio, lui aussi, et puis dans les librairies, c'est un auteur dans les années 40 extrêmement populaire.
Oui, c'est-à-dire qu'avant d'être connu comme chanteur, il n'a été connu comme chanteur qu'en 49-50. En France,
oui, on en parlera.
Au Canada, personne ne veut écouter ce qu'il fait. Mais il est animateur de radio, auteur de nouvelles radiophoniques, et il a un succès formidable dès 1940 à peu près. Et on publie donc ses pièces, ses nouvelles, et c'est un succès de librairie sensationnel. C'est-à-dire des centaines et des centaines et des centaines de milliers de livres avant qu'il ne soit connu comme chanteur.
Et il faut dire que l'écriture est orale au Québec. C'est fait pour être dit autant que pour être lu. Non?
Ben, c'est-à-dire surtout que au Québec, jusqu'aux années 60, il y a guerre d'écrivains, il y a guerre d'intellectuels, il y a guerre de bourgeoisie cultivée, etc., etc., etc.
Quoi. C'est ce que dit Sarah Bernhardt beaucoup plus tôt quand elle vient au Québec pour la première fois et qu'elle reproche aux Québécois de ne pas constituer un public.
Oui. Elle leur dit, je crois, vous n'avez pas d'homme. C'est ça, c'est, je crois, c'est elle qui dit ça.
Pas d'homme de plume.
Oui,
mais il y a Radio-Canada, à quoi vous attachez, Jacques Bertin, beaucoup d'importance, et qui diffuse donc ses fables, ses textes de Leclerc, Adagio, Andante, et ici, c'est Allegro.
Le Patriote, une fable de Félix Leclerc. Depuis le commencement du monde, tout marchait très bien dans la forêt. Le Créateur avait dit, croissez, gagnez votre vie et retournez au néant. Et les animaux obéissaient joyeusement. Ils savaient la loi, la respectaient. Dans toutes les tribus, les bêtes du bon Dieu s'en allaient tranquillement avec leurs mœurs respectives. Elles naissaient, vivaient et mouraient en se passant leurs coutumes d'une génération à l'autre. Si elles étaient heureuses, c'est parce qu'elles profitaient du bonheur qu'il y avait sur place. Elles réglaient leurs disputes en famille, corrigeaient les indisciplinés, récompensaient les méritants et chantaient les beautés de leurs immenses domaines. Partout, des grasses vallées au sommet des monts chauves, on vénérait le chef. Un grand orignal solitaire et majestueux qu'on avait surnommé le Patriote à cause de son amour de tout ce qui l'entourait. On le voyait souvent réfléchir au bord des grandes rivières. Plusieurs disaient « Il regarde passer l'histoire ».
Voilà, et en France, à la même époque, Guy de Larigaudy, lui, regardait dans le ciel les étoiles de la volonté. Jacques Sigal, qui a un flair surnaturel, c'est notre réalisateur, dit « C'est quand même assez catholique traditionnel ».
Ah ben, Félix était, se considérait, se disait écrivain catholique. Jusqu'à pratiquement, je ne vais pas donner une date, évidemment une date précise, mais jusqu'aux années 60.
Bah jusqu'à ce que vous, jeune homme, quand vous le connaissez à la Cato de Lille, lui recommandiez de divorcer.
Ah non, je n'ai jamais dit ça, moi. Ça m'en regarde enfin. Pas. Non. Il y a eu un drame familial, en effet, mais qui ne me regardait nullement.
Non. Oui, mais vous avez constaté que même au milieu des années 60, enfin, il était quand même...
Bon, comme toute la société québécoise.
Tenu par des liens de fidélité très forts.
Oui. Ce qui est extraordinaire au Québec, c'était un pays ultra-catholique, où la laïcité n'existe pas, et vers 1960, il y a la Révolution tranquille, c'est-à-dire que tout le pays se laïcise dans un enthousiasme sensationnel.
Et là, on en est aux années d'avant le dégel.
Alors, excusez-moi,
mais c'est moi qui vous ai fait évoquer une période trop tardive, parce qu'il faut dire quand même comment son premier passage en France, vous étiez à peine né, vous étiez encore en barboteuse, Jacques Pertin, on est en 49-50-51, avec Jacques Canetti comme impresario, le transforme.
Alors, ben, personne ne voulait écouter ses chansons. Canetti vient faire un voyage.
Il écrivait des chansons depuis les années 30.
Oui, c'est ça, depuis 1932, Notre Sentier. Et personne ne voulait écouter ça, quoi, bon. Et Jacques Canetti vient au Québec, au Canada français encore à l'époque, il cherche un chanteur canadien français. On lui fait écouter des gens qui chantent les ponts de Paris, chantent les quais de New York, des choses à la mode, quoi. Il dit non, je veux un canadien français. Et un ami de Félix, du Lude, dit ah ben il y a Félix peut-être, mais je ne sais pas s'il va vouloir venir. Et donc on fait chanter sous un prétexte Félix dans un studio avec Canetti qui est dans la cabine et qui dit mais ce type est sensationnel. Et on lui dit pourquoi, et il le dit en anglais en plus, parce que le studio évidemment tout le monde parle anglais, parce qu'il a une âme. Et il prend Félix, il part avec un disque enregistré en direct comme ça, hein, 3 heures. Il rentre à Paris, il fait circuler le disque, prix du disque, et la gloire de Félix commence aussitôt.
Il est venu pour 3 semaines, avec son baluchon de 30 chansons, un ABC surtout aux Trois Baudets, puis un peu comme vous, un peu dans toutes les régions de France. Et il y reste 2 ans, et il impose le premier, dites-vous, le style auteur, compositeur, interprète, avec seulement la guitare.
Oui, moi ce que j'appelle maintenant le chant-auteur, c'est-à-dire celui qui fait tout, et qui faisant tout, a la liberté, et ça ne coûte pas cher. Vous voyez, parce que Trenet, à la même époque, est auteur, compositeur, interprète, mais par exemple Trenet, il faut un piano, donc il faut un piano accordé, donc ainsi de suite, vous voyez, ça coûte de l'argent. Félix, comme disait Brassens, si le public n'en veut pas, je les remets dans ma guitare. D'où la liberté de ton, de thème, vous voyez,
Mais voilà. Le français de l'époque aime bien, c'est moins tragique que Piaf, c'est doucement mélancolique, ça va l'être de moins en moins, on l'entend ici au milieu des années 50.
Moi, je me souviens qu'à l'âge de 20 ans, j'écrivais des chansons plus tristes, infiniment plus tristes et plus mélancoliques que celles que j'écris aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a plus de bonheur. Les situations sont plus heureuses que celles que j'écrivais autrefois.
Pour ta tête, un oreiller, et pour tes yeux, bien aimé à l'infini. chevalier. Quarante fous du roi, tout maquillé. Des ombres nous guettant.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Jacques Pertin qui poursuit depuis longtemps un dialogue amoureux, vous allez peut-être mettre ce mot, avec Félix Leclerc, c'est le titre de cette chanson qui est une rareté, hein. Vous ne connaissiez pas.
En effet, tout d'un coup je dis mais qu'est-ce que c'est ça?
Mais c'est peut-être resté dans les annales de Radio-Canada. C'est d'ailleurs Radio-Canada qui a joué avec les boîtes à chansons un très grand rôle dans la multiplication de la chanson québécoise quand Leclerc rentre de son premier séjour à Paris.
Oui, c'est-à-dire que la Révolution tranquille, c'est aussi l'époque de toute une génération de chanteurs, d'auteurs, compositeurs, interprètes, de grands talents, les boîtes à chansons, c'est-à-dire...
Qu'est-ce que c'est ça, les boîtes à chansons?
Eh bien, la plus connue, ça s'appelle Les Bozos. Et c'est ce qu'on dirait en France, les cabarets rive gauche, si vous voulez. Et donc, les boîtes à chansons par dizaines, quoi, au Québec. Et donc, les chanteurs, ben, vous les connaissez, Gilles Vigneault, Raymond Lévesque, Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland, Pauline Julien, ainsi de suite.
Mais vous anticipez encore un peu, là, Jacques Pertin, c'est avant la Révolution tranquille, depuis les années 60, qu'ont commencé à se multiplier les contacts. Il y a une sorte de découverte mutuelle, mais c'est vrai que à partir des années 60, les visites deviennent assez régulières de part et d'autre. Québec, France, non?
Ah oui.
Oui, mais c'était pas le cas avant, parce que le Québec était un isolat qui connaissait pas beaucoup la France.
Absolument, oui. Et puis, c'est vrai que Félix est devenu un héros national aussi, parce qu'il a été le premier Canadien français célèbre à l'étranger, toute catégorie professionnelle confondue. Oui.
Dans le Perche, à cette époque-là, c'est une des régions d'origine des Canadiens français, on commence à s'intéresser à la généalogie, et c'est ainsi qu'en 1967, les Tremblay de l'île aux Coudres viennent sur les traces des Tremblay de Tourouvre, dans l'Orne, et ça donne lieu à un très beau film, Le règne du jour, de Pierre Perrault. On va entendre que Québécois sont un peu perplexes jusque devant l'accent des percherons.
La langue que nous avons, nous autres, qui est commune, mais c'est la langue directement de nos ancêtres, prends ça. Elle vaut mieux sans parler que le mien.
Parfois, écoutez ça, vous, hein, ça dépend comment qu'on le prend.
Nous autres, avec le Gaspé, par exemple,
ouais.
Il y a une différence de parler. Même on voit une différence de parler avec les gens de Montréal.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai que ce serait moyen enjeu que de parler français?
Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère.
Les vertus du voyage et de l'échange. La chanson la plus connue peut-être
un petit mot
de Léo Ferré, de Félix Leclerc.
Félix, je reviens un petit peu en arrière. Tremblay, c'est le nom le plus courant au Québec. Oui, statistiquement, ils s'appellent tous Tremblay, quoi.
Oui, mais c'est Tremblay, ils le coudent, ils rentrent au Québec en se disant, ils sont un peu arriérés quand même, c'est français. Ils n'ont pas vraiment l'eau courante, ils ont eu les batteuses bien après nous. Leur horloge, parce qu'ils rentrent souvent avec des horloges. Il faut la mettre à l'heure du Québec, quoi. Ce sont deux pays différents, parce que le voyage et l'échange permet de révéler aussi la différence.
C'est la charnière, c'est 1960, où ce pays supposé, et réellement d'ailleurs, vous voyez, archaïque intellectuellement, sans bourgeoisie, avec une toute petite élite intellectuelle et artistique, devient, avec l'assentiment de tous les Québécois, dans la joie, on peut même dire, dans la joie, un pays moderne, ultra moderne.
Quoi. Alors ça, c'est la Révolution tranquille. Vous brûlez d'y venir depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que c'est?
C'est le gouvernement de, voyons comment s'appelait-il, Le Sage, oui. Jean Le Sage,
qui a succédé à Duplessis mort.
Voilà, il y a Sauvé qui est 3 mois Premier ministre, mais qui meurt prématurément, élection, et voici Jean Le Sage, un libéral donc, et la révolution se fait par tous les côtés, y compris bien entendu le côté législatif, quoi, c'est-à-dire le mariage civil, la laïcisation des hôpitaux, enfin, etc., etc.
L'Église rend son pouvoir, dites-vous.
Absolument. Et ce qui est sensationnel, c'est que beaucoup de prêtres et de religieux quittent les ordres. Cela se fait sans aucun anticléricalisme. Ça aussi, c'est sensationnel. Vous imaginez, en France, on aurait eu des morts et l'anticléricalisme, on l'a eu. Hein, bon. Et là, pas du tout. Et ces curés qui quittent leurs ordres deviennent, parce qu'ils sont les seuls à être, à avoir fait des études, ils deviennent les cadres de la nouvelle administration. Vous voyez, voilà.
Et puis c'est la défense de la langue.
Alors bien sûr. Alors après, c'est toute la question du choix entre éventuellement le fédéralisme, n'est-ce pas, et éventuellement le souverainisme. Ça vient ensuite, ça vient à la fin des années 60. Quoi.
Alors à la fin des années 60, c'est le voyage du général de Gaulle. Les Français découvrent le Québec comme ça, beaucoup plus nombreux qu'avant, mais ils ont plutôt tendance à considérer que le général est sénile et ils ne voient pas que le Québec est juvénile.
J'aurais peut-être pas dit ça.
Félix Leclerc était gaulliste, lui.
Oui. Mais vous imaginez le représentant de la France qui vient sur le perron de l'hôtel de ville de Montréal et qui crie « Vive le Québec libre !» alors que ce pays a été abandonné par la France en 1760. Entre 1760 et 1855, il n'y a pas eu un seul bateau français dans le port de Québec. Voyez, et on leur a dit, vous allez dans quelques temps parler anglais, et puis c'est tout, quoi. C'est, vous êtes promis à l'anglicisation, et ils n'ont jamais marché. Et tout d'un coup, De Gaulle arrive et dit, vive le Québec libre, mais vous dire que ça a fait du bruit.
Alors, à la fin de ces années 60, il y a des légalistes, et puis il y a une tendance radicale, à l'image peut-être des mouvements révolutionnaires contemporains. En 1970, le Front de libération du Québec provoquent des enlèvements et qu'elles peuvent provoquer des morts. Ensuite, se met en place, sous l'autorité du gouvernement fédéral d'Ottawa, une législation de guerre. Figurez-vous que, se rendant dans sa maison de l'île d'Orléans, Félix Leclerc se voit apostrophé par un soldat de l'armée d'occupation canadienne qui lui demande ses papiers.
Pour des raisons humanitaires, afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture du manifeste du Front de libération du Québec. Qu'aux quatre coins du Québec, ceux qu'on a osé traiter avec dédain de lance des French et d'alcooliques entreprennent vigoureusement le combat contre les matraqueurs de la liberté et de la justice et mettent hors d'état de nuire tous ces professionnels du hold-up et de l'escroquerie, banquiers, businessmen, juges et politiques ailleurs vendus. Nous sommes des travailleurs québécois et nous irons jusqu'au bout. Nous voulons remplacer avec toute la population cette société d'esclaves par une société libre, fonctionnant d'elle-même et pour elle-même, une société ouverte sur le monde. Notre lutte ne peut être que victorieuse. On ne tient pas longtemps dans la misère et le mépris un peuple en réveil. Vive le Québec libre, vive les camarades prisonniers politiques, vive la Révolution québécoise, vive le Front de libération du Québec.
Que si s'enrager, que voix ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai ainsi s'écrasé dans les temples sa finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils écrasé, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Mon fils est en prison.
Alors attention, Félix Leclerc, c'est un paysan, n'est pas partisan des vandales et des braconniers. Tout de même, là, comme lui, vous vivrez. Hein. C'est une des plus belles chansons. Hein. Félix Leclerc, l'Alouette en colère.
Oui. Ben, ça, il rejoint les
ne rejoint pas le FLQ. Non, il rejoint, bien sûr, parce que les souverainistes, légalistes, oui. René Lévesque.
Le FLQ, donc, c'est un mouvement très, très, très ultra-minoritaire, hein, qui a permis à Trudeau de faire un coup politique.
Trudeau, Premier ministre du Canada.
Voilà, qui était Premier ministre du Canada à l'époque, de faire un coup politique qui a été pris pour la plupart des Québécois comme une insulte. C'est-à-dire c'est même, la loi martiale, oui, oui. Imaginez.
C'est même, vous trouvez que c'est pas mal rédigé, le
manifeste du FLQ, oui, hein? C'est-à-dire, j'en parlais à des amis québécois, et ils me disent, nonobstant le fond de l'affaire, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé deux hommes politiques, et il y en a un qui est mort, mais à part ça, le texte lui-même, les Québécois écoutaient ça, puis à la radio... puis il disait, ben oui, c'est bien ça, en effet, c'est bien ça, oui, c'est vrai, oui.
Et puis la loi martiale, Pauline Julien, justement soupçonnée, arrêtée pendant une semaine, oui.
Si vous permettez, 31 000 perquisitions, la loi martiale, vous imaginez ce que ça donnerait en France. 31 000 perquisitions sans mandat.
Voilà. Alors, il va devenir un chanteur politique.
Je dirais pas ça, quand même. Je dirais pas ça. Il a d'abord, il a la conscience, lui, d'être un petit peu, pas un phare, mais une parole qu'on écoute, quoi. Hein. Et le fait même qu'il se rallie au souverainisme et qu'il fasse cette chanson, L'Alouette en colère et quelques autres, hein, ou Le Tour de l'île plus tard, à la hauteur de toute la population du Québec, quoi. Félix et des nôtres.
Le peuple acquiesce au souverainisme de manière symbolique en 1974, au moment de la grande franco-fête.
Ah,
avec
oui.
Charlebois, Vigneault.
Voilà, alors ben là.
Le peuple allume les briquets pendant que les trios chantent.
Alors c'est ça, Vigneault, Charlebois, Félix, sur les plaines d'Abraham. Il doit y avoir 100 000 personnes à peu près ce soir-là, et ils chantent une chanson. D'un quatrième qui est Raymond Lévesque, quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, etc. Et c'est un effet sensationnel, oui, bien sûr.
Bon, on ne dira pas que le nationalisme québécois est maintenant en panne. On recommandera la lecture du Dépanneur de Jacques Bertin, petit lexique à l'usage des Français qui croient connaître le Québec. On dira qu'à la BNF ce jeudi. Et ce samedi, deux après-midi à 18h30, jeudi à 14h, samedi consacré à Félix Leclerc. Et puis vous avez dans votre baluchon une conférence évocation de Félix Leclerc.
Ben oui, pour
cet été à Blanza, dans le Puy-de-Dôme, au mois de juillet. Puis ailleurs, si des auditeurs font appel à vous. Et le 20 juin, vous êtes... Après-demain, vous êtes où?
À Ferney-Voltaire.
À la frontière suisse. Merci à vous, Jacques Bertin, le roi heureux. Et votre livre sur Félix Leclerc, écrit de son vivant avec son autorisation, est toujours disponible chez Boréal. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Julien Dumont, qui a appris beaucoup de choses sur Félix Leclerc et le Québec. Aujourd'hui, Charles-Éric Duvic, Guillaume Georges, Adrien Cara, Ilinka Egulesco, Frédéric Martin.